jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Foot Braise.
Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Foot Braise. Le lundi 4 septembre, aujourd'hui, vous accueille avec notamment le retour du derby, ou en tout cas le retour sur le derby breton, opposant le Stade Brestois au Stade Rennais. C'était samedi soir, score nul et vierge 2-0-0, quelque peu décevant donc, mais un bon point pour les Tisef. Et Quentin du groupe de podcasteurs Brestonnaire sera avec nous dans un instant pour décrypter cette rencontre disputée au Stade Francis Leblé. Nous reviendrons aussi sur le week-end bien moins réjouissant des Merlus, corrigé sur la pelouse du promu Havre, score final 3-0, et nous accueillerons Alexandre Lebris, journaliste au Télégramme, pour revenir sur cette première défaite lorientaise de la saison. Enfin, nous recevons Stéphane Lamant, l'entraîneur de Dinan Léon. Le promu costa-mauricain a décroché la première victoire de son histoire en National 2, samedi soir, un succès 2-0 face à Aubervilliers.
Parlons bien, parlons sport, 100% Foot Braise.
Et on accueille donc, pour revenir sur le derby entre le Stade Brestois et le Stade Rennais, derby pour la quatrième journée de Ligue 1, Quentin de Brestonnaire, groupe de podcasteurs qui suit maintenant l'actualité des Tisef depuis plusieurs saisons. Quentin est avec nous. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous.
Alors le match nul face à Rennes, 0-0 à Leblé, un bon point quand même pour les Brestois.
Avant le match, on va dire que ça aurait été un bon point. Quand on voit la physionomie du match, on peut se dire que deux points de plus n'auraient pas été volés. Maintenant, chaque supporter, je pense, aura sa propre idée sur le fait que ce soit un bon point ou un mauvais point. Mais bon, au moins, c'est un point. On va dire que c'est mieux que rien, mais avec un petit goût d'inachevé, on va dire. Ce point.
Ouais, on retient notamment les deux grosses occasions de Jérémy Ledouaron en première période où c'est vrai que la rencontre aura pu basculer.
Ah, on les retient, ça c'est sûr qu'on les retient. En tout cas, si une équipe avait dû gagner, je pense que Brest aurait mérité davantage que le Stade Rennais sa victoire, ce qui, compte tenu des forces en présence, est assez intéressant d'un point de vue brestois, hein, et ça confirme aussi le bon début de saison où on est sur quatre matchs de bonne voire très bonne facture. On se dit finalement que 10-12 points n'auraient pas été volés. Donc on est sur la lignée de ce qu'on voit sur le début de saison, et c'est ce qui est le plus intéressant, on va dire, côté brestois, c'est vraiment d'aligner les bonnes performances face à des bonnes équipes et le Havre qui jouait son premier match en Ligue 1 depuis une dizaine d'années. Donc on aurait pu se dire que le Havre aurait pu mettre le feu, tout ça, mais Brest avait bien contenu les Havrais. Donc c'est vraiment un très bon début de saison, et on va dire que ce point rentre dans cette lignée là.
Vous le disiez, Quentin, c'est vrai qu'il y a quelques petits regrets quand même, au vu de la physionomie du match, de ne pas avoir battu Rennes samedi soir. Et il y a surtout une constante, c'est que Brest n'arrive plus à battre le voisin rennais. C'est surprenant, ça, malgré de bonnes prestations. On se souvient de certains matchs aussi, il y a deux saisons, d'une défaite 2-1 à Brest. Du dernier match, l'année dernière, face à Rennes, défaite là aussi 2-1. Ce week-end 0-0, mais Brest n'arrive pas à battre le Stade Rennais.
Après, quand on voit les forces financières des deux clubs, on se dit que c'est presque logique, tant les deux clubs n'évoluent pas dans la même catégorie de clubs en Ligue 1. Après, c'est vrai que je sais pas à combien ça remonte, c'est peut-être
C'était le 2-0 en 2011, la dernière victoire de Brest avec
le but de Nolan Roux.
Exactement.
Hein, je pense, ouais. Ouais, ça commence à faire, hein. Ça commence à faire. Ça aurait dû être samedi. Après, on se dit finalement que ça va arriver un jour.
Exactement, ça tournera pour les Brestois. Alors vous le disiez, c'est un très bon début de saison, hein, du Stade Brestois. Victoire contre Lens, contre le Havre, nul face au Rennais. Quel regard vous portez sur ce premier mois globalement? C'est vrai qu'il est satisfaisant et assez étonnant en fait, parce que surtout quand on voit le premier match où c'était très mal parti avec des Lensois qui menaient 2-0, bon, on est surpris quand même de ce que propose le SB 29 sur ce début de saison, surtout après le début de saison l'année dernière qui avait été très difficile.
Ouais, c'est ça, agréablement surpris. Je pense que le fait d'avoir gardé finalement une très très bonne ossature par rapport à la fin de saison dernière, une dynamique qui était plutôt bonne également en fin de saison passée, le travail de Éric Roy, hein, qui est à souligner depuis qu'il est arrivé aux mains de cet effectif, et qui lui aussi est également très surprenant. On était vraiment, on ne savait pas sur quel pied danser avec Éric Roy, et le fait est que depuis qu'il est arrivé, à la fois, on va dire, Brest prend des points, et puis franchement, dans les contenus, c'est pas déconnant, hein, même dans le jeu, dans ce qu'on voit sur le terrain, c'est ce qu'on disait après le match. Ça fait longtemps finalement qu'on ne s'est pas ennuyé en regardant le Stade Brestois. On prend du plaisir à aller au stade, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien entraîneur. Et finalement, le bon travail aussi, hein, de Grégory Lorenzi, qui a pu faire avec le peu qu'il avait, sortir un plutôt bon mercato, et surtout, je pense, une construction d'effectifs qui est intéressante avec davantage de cadres, on va dire, qui ont une expérience de la Ligue 1.
Ouais, c'est vrai.
Notamment Pierre Lesmelou, hein, qui est arrivé l'année dernière et qui sur ce début de saison est, je pense, peut-être le meilleur Brestois, qui a encore été très bon contre Rennes. Voilà, des joueurs qui prennent en coffre, on va dire, niveau Ligue 1, et ça se ressent aussi. On voyait les dernières saisons un Stade Brestois qui jouait comme un petit. On va dire qu'il se présentait sur chaque match, et notamment contre les gros, alors surtout à l'extérieur, hein, mais où vraiment on sentait un Stade Brestois qui arrivait en tant que petit sur le terrain, et cette année c'est vraiment pas le cas, même contre Marseille, hein. Alors Marseille certes n'a pas fait un bon match et est en difficulté sur le début de saison, mais il y a un Brest ces dernières saisons qui aurait laissé le ballon marseillais, qui serait fait manger, qui serait fait rouler dessus, hein, mais
ouais, Brest n'a plus peur de ces équipes là
c'était vraiment très très bien à Marseille, et je pense que c'est le, malgré la défaite, c'est peut-être le match qui est le plus rassurant pour la suite de la saison.
5 points déjà pour les Tizèves dans cette saison. Une petite pause et puis on revient, Quentin, dans un instant pour bien continuer de décrypter cette rencontre et ce début de saison du Stade Brestois.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer.
Bonjour,
Robin Bernot.
Et alors, chaque matin, on vous met au défi, à vous d'être le ou la plus rapide à retrouver notre ville du jour grâce à 3 indices donnés par l'équipe. Si par exemple, je vous dis Rocher, Surf, Hôtel du Palais, vous me dites Biarritz, eh bien c'est gagné. Pour jouer avec nous, rendez-vous dès 5h.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. C'est la vie sur France Bleu. Chaque jour, des histoires de vie pas comme les autres.
Bonjour,
Géraldine Mayer.
Utile futile, c'est le nom de la chaîne YouTube de mon invité, Nadia Richard. Une chaîne dédiée aux histoires de cœur, des histoires par milliers soulevant de nombreuses questions autour de l'amour, de la séduction, de la sexualité. Prétexte pour réfléchir et échanger sur les nôtres d'histoires de cœur.
C'est la vie, demain sur France Bleu, dès 14h.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Footbraise.
Et avant de revenir sur l'actualité footballistique, voici Shape of You, un titre du 3e album du chanteur britannique Ed Sheeran sur France Bleu, Braise Zizel.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
Sur France Bleu Braise Zizel avec Shape of You.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Et on revient sur ce derby entre le Stade Brestois et le Stade Rennais. Quentin du groupe de podcasteurs Brestonnaire est toujours avec nous pour décrypter alors ce match, mais plus globalement aussi le très bon premier mois de la saison du Stade Brestois. 5 points pour les Tizèf. Quentin, on a un début de saison, on le disait, positif. Quel est selon vous en revanche le petit bémol peut-être qu'il faudrait corriger pour la suite de la saison?
On va dire le réalisme. Le réalisme tant à Marseille que contre Rennes. Finalement, ça reste deux matchs sans marquer pour le Stade Brestois. Et surtout des attaquants, on va dire, qui n'ont pas encore lancé leur saison. Que ce soit Jérémy Le Doiron ou même Martin Satriano, Steve Mounier, qui ont tous finalement raté des occasions dans ces deux voire trois derniers matchs. Hein, Satriano notamment contre Le Havre. Il serait de bon aloi que ces attaquants lancent leur saison, parce qu'effectivement Romain Del Castillo ne peut pas tenir, on va dire, l'attaque à lui tout seul tout au long de ces 34 journées, et surtout on n'aura pas non plus deux pénaltys par match quoi à chaque fois. Donc il va falloir régler la mire idéalement assez rapidement.
C'est vrai que c'est un petit peu surprenant, hein, Martin Satriano qui n'a pour l'instant pas marqué et qui a été quand même assez discret sur ses quatre premiers matchs. Alors on le sait qu'il revient en France après une saison en Italie, mais bon, il connaît le club, il connaît l'environnement quand même. On est un petit peu surpris qu'au bout d'un mois, on n'ait pas un peu plus vu.
Après, c'est vrai qu'il est assez esselé. Je l'ai trouvé pas vraiment en difficulté, mais peut-être un peu perdu sur le terrain par rapport aux autres. Il est assez seul, on a du mal à le trouver, notamment dans le jeu. Pourtant, quand on le trouve, il fait plutôt des bonnes choses, notamment dos au but. Il a quand même une qualité technique que n'a pas nécessairement Steve Mounier, qui a d'autres qualités que n'a pas Satriano. Et peut-être la relation entre notamment Del Castillo et lui qui tarde peut-être à se mettre en place. Mais bon, je pense que voilà, il n'a pas fait une très très bonne saison l'année dernière. Il n'a pas non plus joué beaucoup. Donc peut-être qu'il a aussi un peu le temps de se remettre en marche. Mais j'ai pas mal confiance en l'Uruguayen pour marquer sa dizaine de buts cette saison.
Ouais, et puis le Stade Brestois a recruté un autre profil offensif hein, aussi dans les dernières heures du mercato. Bilal Brahimi, prêté par Nice. On entendait Eric Roy, disons souligner un petit peu le manque de profondeur sur le début de la saison, de profondeur de banc. Là, c'est vrai qu'il y en a un petit peu. On voit Mounier sur le banc, Brahimi, Martin aussi, voire même le jeune Camblanc. Ça offre des armes au Brestois.
Oui, profondeur de banc et finalement aussi profondeur sur le terrain. Je pense que c'est un joueur qui est plus dans le style Honora.
Ouais, c'est vrai.
Que Del Castillo, que le Doiron. Je pense qu'il est plus dans ce registre-là de dynamiteur, on va dire, d'attaque sur un côté. Et son entrée a été tout à fait satisfaisante hein, samedi. Il a fait ses efforts défensifs, il a pu provoquer aussi offensivement. Il aurait pu obtenir un ou deux coups francs. Alors je sais pas si j'ai pas revu les images, mais du stade, en tout cas les spectateurs brestois avaient l'air convaincus que. Il y avait un ou deux coups francs sur lui, mais ouais, vraiment ça offre davantage de possibilités et de concurrence. Hein, surtout, c'est important que le Doiron, même Del Castillo, hein, ne se sentent pas, on va dire, titulaire indiscutable.
Ouais, c'est ça, toute la concurrence.
Fasse le boulot à l'entraînement, surtout que évidemment, le 34 matchs, c'est long. Donc une blessure, une suspension et un manque de forme. Hein. Si Jérémy Le Doiron venait à continuer à rater des occasions aussi nettes qu'il a rappelé contre Rennes, évidemment, il faudrait faire quelque chose. Hein. C'est pas grave. Ce sera nécessaire. Donc ça offre pas mal de possibilités, que ce soit en nombre et dans le style de jeu aussi.
Exactement. Et les Brestois qui se déplaceront à Reims juste après la trêve internationale le 17 septembre. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu Brésil.
Merci à vous.
Merci. Bonsoir.
Au revoir.
Et tout de suite, on va se pencher sur la suite bien sûr du programme.
Sur les France Bleu de Bretagne, Gaëtan Pinel, 100% Foot Braise.
Et une petite pause sucrée dans 100% Foot Braise. On se croirait presque au cinéma avec ce titre Popcorn Salé, le premier single de la carrière en solo de Santa, chanteuse dont la carrière a décollé via le groupe niçois Hyphen Santa sur France Bleu Braise Isel.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens. Un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez, viens.
Marianne Salé avec la niçoise Santa sur France Bleu Braise Isel.
Crimes et témoignages. La saison 2 du podcast glaçant de France Bleu. Crimes et témoignages. Des faits divers bouleversants, effrayants, racontés par ceux qui les ont vécus. Crimes et témoignages. Saison 2. 5 nouveaux épisodes à écouter sur francebleu.fr et sur l'appli Radio France. Crimes et témoignages. Un podcast France Bleu.
Bonjour. Ce court moment dans l'esprit détendu et apaisé d'un propriétaire serein vous a été offert par la garantie visale d'Action Logement.
Vous aussi, optez pour la sérénité en garantissant vos revenus locatifs en cas de loyers impayés ou de dégradation. Visale, c'est plus d'un million de garanties délivrées gratuitement et en quelques clics sur visale.fr.
Dispositif soumis à conditions. Action Logement, reconnu d'utilité sociale.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu en Bretagne, ici, on parle d'ici.
Et un point météo avec du soleil encore sur la Bretagne en cette fin de journée. Des averses et des éclaircies rythmeront la matinée demain avant que le soleil ne fasse son apparition pour l'ensemble de l'après-midi à l'intérieur de la région comme sur le littoral. Côté température, il fera entre 22 et 32 degrés. Comptez 25 à Pinmar, 24 à Lesnevin, 28 à Pleubian et Quintin, 28 aussi à Nézin ou encore 26 à Saint-Avé. Il fera même un peu plus chaud en Ille-et-Vilaine avec 32 degrés à Tinténiac et Château-Giron.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% footbraise.
Et après le Stade Brestois, on bascule sur le FC Lorient. Le FC Lorient qui était en déplacement sur la pelouse du Havre hier après-midi. Défaite 3-0 chez le promu havrais pour la troupe de Régis Lebris. C'est la première défaite de la saison des Merlus qui avait pourtant livré un sacré match le week-end précédent face au LOSC. Victoire 4-1, victoire éclatante. Ça avait enflammé le moustoir, mais le soufflet est retombé ce week-end en Normandie. Défaite donc 3-0. Et pour revenir sur cette rencontre, nous avons Alexandre Lebris au téléphone. Alexandre Lebris, journaliste au Télégramme, qui était au Stade Océane hier après-midi. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous.
Alors une large défaite au Havre hier et des Lorientais méconnaissables finalement sur la pelouse du Stade Océane.
Ouais, exactement. Les Lorientais ont montré des signes de fébrilité qu'ils n'avaient pas encore montré depuis le début de saison. Donc c'est une lourde défaite, mais qui est loin d'être illogique en tout cas ce dimanche après-midi.
Oui, lourde défaite, 3-0, 3 buts concédés en seconde période face au Havrais. On a vu Alexandre des Merlus cherchant à contrôler le match en première période notamment, mais vraiment apathique défensivement aussi.
C'est ça en fait, la clé du match c'était la possession du ballon. En fait, Lorient l'a eu à 65%, et comme l'a rappelé Régis Lebris en conférence de presse, ce n'est pas une situation qu'ils avaient l'habitude de connaître, les Merlus. Ils avaient débuté par le Paris Saint-Germain, Nice, puis Lille. Et à chaque fois, la possession du ballon était à l'adversaire. Là, cette fois-ci, cette nouvelle configuration, c'était un test en fait pour les joueurs de Régis Lebris et qui s'est soldé par un échec. Hein. Une première mi-temps plutôt équilibrée, mais avec des signes de fébrilité défensive et qui se sont confirmés donc en deuxième mi-temps. Avec un premier but qui vient un petit peu sur un coup du sort. Hein. C'est une mésentente entre Laurent Berger et Julien Laporte qui a offert en fait le premier but au Havre. Et puis ensuite, ouais. Le collectif s'est complètement délité au Havre dimanche.
Cette incapacité à réussir justement à prendre le jeu à son compte quand Lorient a le ballon, ça peut être un petit peu inquiétant pour la suite, parce que quand on voit les profils que Lorient est allé chercher, c'est une équipe qui va vouloir avoir le ballon un peu plus souvent sans doute.
Oui, mais c'est le système qui veut aussi ça. Ça veut dire qu'on a deux milieux de terrain avec Aberger et Ponceau qui sont là pour solidifier le bloc. Et on l'a vu en fait à partir de l'ouverture du score. après s'être longtemps cassé les dents sur le bloc, ils sont tous partis à l'avantage. Donc il n'y a pas que, il y a les pistons, il y a les attaquants aussi, ce qui fait que le bloc s'est délité. C'est vrai que Lorient a montré d'étonnantes difficultés. L'année dernière, ces questions-là s'étaient déjà posées au fur et à mesure de la saison, et Régis Lebris avait réussi à régler le problème. Donc en fin de saison, là, a priori, on repart sur les mêmes bases, sur le même schéma à reconstruire. Alors, c'est compliqué, puisque de gérer cette animation offensive, déjà parce que Lorient commence le match avec Cyriné Doucouré qui découvre la Ligue 1, ouais, avec Pablo Pagis également qui découvre la Ligue 1 lui aussi, deux très jeunes joueurs. Donc il y a aussi ces affinités à créer, les marques à trouver à ce niveau-là. Et en fait, Lorient est toujours orphelin de Terem Moffi, parti au mercato d'hiver dernier. Bamba Dieng n'a pas réussi encore à reprendre le flambeau, et c'est vrai que c'est compliqué de se créer des occasions pour Lorient quand on a le ballon.
Ouais, c'est vrai, hein. Lorient, c'est pour l'instant pas vraiment remis du départ de Moffi à Nice en janvier dernier. Alors, il y a eu quelques victoires éclatantes ici ou là, et notamment il y a une semaine contre Lille, 4-1, avec aussi, c'est vrai, des Lillois qui avaient bien aidé les Merlus avec deux grosses erreurs en début de rencontre. Est-ce que cette large victoire, 4-1, n'était pas un petit trompe-l'œil finalement, une semaine plus tôt?
C'était pas forcément un trompe-l'œil, parce que Lorient ce jour-là a fait son match et a bénéficié certes des erreurs des Lillois, mais là est tombé face à une équipe à Brest qui a joué en bloc bas très solide et qui là n'a fait aucune erreur. C'était à Lorient de créer le jeu, et c'est vrai qu'ils ont éprouvé toutes les difficultés pour passer ce bloc défensif. Et le pire, c'est surtout dans la manière, puisque après ce premier but, il y a eu un véritable découragement ressenti sur la pelouse. L'équipe s'est coupée en deux, livrant à eux-mêmes les défenseurs, et les vagues sont arrivées comme ça. Donc c'est un petit peu inquiétant, mais faut pas tomber non plus dans le catastrophisme, hein. Lorient n'aura pas 65% de possession de balles tous les week-ends. Et Lorient fera sûrement des progrès. Donc on est encore en début de saison. Il y a de jeunes joueurs devant à intégrer. Il y aura Bamba Dieng qui va peut-être faire son retour dans le 11. En attendant, Tosin est arrivé. Il y a le petit Croupi qui est également là.
Ouais, qui a une belle occasion de but d'ailleurs hier en fin de match.
En toute fin de match, c'est vrai qu'il a une occasion de but. Mais c'est là aussi encore un jeune joueur qui découvre la Ligue 1. Donc il faudra du temps. C'est un défi que connaît le FC Lorient. Régis Lebris en est conscient. Il faudra du temps pour que la mayonnaise prenne dans ce secteur offensif.
Oui, exactement, avec ces jeunes notamment et ces recrues. Alexandre, on se retrouve dans un petit instant, une petite respiration dans 100% Footbraise avec Le Temps est bon d'Isabelle Pierre. Voici le remix version Bon Entendeur, sorti en 2019.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Footbraise avec Gaëtan Pinel.
Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi.
est bon, bon entendeur et Isabelle Pierre.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Et on retrouve Alexandre Lebris, journaliste au Télégramme, pour continuer de décrypter la défaite des Merlus hier après-midi sur la pelouse du Havre. Revers 3-0, la première défaite des Lorientais cette saison. Après trois premiers matchs, en tout cas en termes de points, très très intéressant pour Lorient, parce que un nul à Paris, un nul contre Nice, une victoire 4-1 face à Lille, et donc ce premier accroc hier face au Havrais. Alexandre, les recrues vont peu à peu prendre leur marque, évidemment, du côté de Lorient, mais la difficulté semble de pouvoir les intégrer pour l'instant. Benjamin Mendy, qui n'a pas joué depuis 2 ans, évidemment, mais forcément a besoin de retrouver du rythme. Tsimoué Bakayoko vient d'arriver seulement. Tosin Mvuka ont pour l'instant pas ou très peu joué. C'est peut-être la difficulté aussi un petit peu pour pleinement lancer cette saison du côté de Lorient.
C'est ça, en fait, c'est un petit peu les mêmes problèmes que la saison dernière, c'est-à-dire que Lorient est en perpétuelle transition avec son effectif. Alors c'est vrai qu'à la reprise, après cette trêve internationale, Tsimoué Bakayoko et Benjamin Mendy devraient faire leur apparition progressivement dans le groupe lorientais. Tosin devra lui aussi être intégré à la rotation. En parallèle de ça, il y a peut-être un système qui doit être revu en fonction des matchs de ce système-là, comme face au Havre, il y a la rencontre face à Nantes qui arrive donc après celle de Monaco à la trêve, où Lorient devra peut-être faire évoluer son système pour avoir un milieu un peu plus créatif.
Ouais.
Et là encore, la perte d'Enzo Lefebvre cet été n'a pas forcément été comblée. Cette perte en termes de création, notamment, n'a pas forcément été comblée par le recrutement du FC Lorient cet été.
Est-ce que Bakayoko peut peut-être aller prendre cette place-là, quelque part, de créateur dans le milieu de terrain lorientais?
C'est difficile à dire. Ce sont les matchs qui vont livrer leur vérité. Hein. Bakayoko, personnellement, je l'estime plus comme un milieu plutôt relayeur, qui pourrait, comme Julien Ponceau le fait, tenter des coups, permettre de lancer quelques offensives, mais peut-être pas du calibre d'Enzo Lefebvre en termes de création. Je pense que c'est pas son rôle précisément.
Oui, c'est vrai que c'est plus, comme vous le dites, un relayeur à la Ponceau. Ils vont être en concurrence, hein. D'ailleurs, les deux hommes du côté de Lorient, des Lorientais qui, avec Bakayoko, avec Mendy, font venir aussi des noms, ont affiché de nouveaux moyens aussi, hein, les Lorientais, depuis notamment l'arrivée de Bill Follet en début d'année 2023. Est-ce qu'il y a aussi une nouvelle pression, un nouveau statut à assumer du côté du FCL?
Oui et non, c'est vrai qu'ils sont passés dans un autre monde, on peut le dire, sur le mercato, en tentant ses coups, que sont Bakayoko et Benjamin Mendy, qui ont un passé quand même assez glorieux sur le terrain, notamment. Mais on n'a pas forcément l'impression qu'ils ont cette pression en plus. En tout cas, Régis Lebris essaye de la faire redescendre au maximum. Et les attentes, ce sont eux qui l'a créé, hein. Ce sont pas forcément les attentes des supporters, ou il n'y a pas d'enflammade au club. Et si du moins il y en avait une, je pense que le match du Havre permet de faire redescendre tout le monde par rapport à ça.
Ouais, et juste avant de recevoir le leader, hein, parce que le prochain match pour Lorient, ce sera alors dans 2 semaines, juste après la trêve internationale, et ce sera la réception de l'AS Monaco, l'attaque tonitruante de ce championnat, avec déjà 13 buts marqués en 4 matchs du côté de l'ASM. Merci beaucoup Alexandre Lebris d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu Brésil.
Merci de l'invitation.
Une petite page de pub et puis on revient pour la suite de ce 100% Footbraise.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Footbraise.
Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu a carte blanche.
Les collecteurs de France Bleu.
C'est nos limites sur les pépites.
France Bleu Collector, le son qui met tout le monde d'accord.
France Bleu Collector, tous les soirs dès 23h.
Une pause.
Pause musicale avec la vainqueur de la France à un incroyable talent en 2011. Voici Marina Kaye avec Even Bound.
I held a magnifying glass up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day I see the end of us. Guess I always knew it. But if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door. Walls wrapped in our lies, clinging to each other. But eventually the truth will come for us, like a knife-edged feather. If we could see the signs, we would break apart. If we stay in the dark, so shut the door.
Even Bound de Marina Kaye sur France Bleu Braise Zizel.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Et on poursuit l'actualité sportive, mais on bascule de la Ligue 1 au National 2 ce soir avec, eh bien, l'équipe de Dinan Léon promue en National 2 qui, après un match nul 0-0 à Saint-Brieuc, a gagné son premier match de la saison et tout simplement, mais le premier match de son histoire en N2. Et pour revenir, bien sûr, sur cette performance, nous avons avec nous le coach de Dinan Léon, Stéphane Lamant. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir à tous.
Alors c'est une vraie performance là que vous venez de réaliser avec cette première victoire en N2 pour Dinan Léon. L'émotion devait être forte au Clos Gastel samedi soir.
Une véritable performance, oui, un bon match. Après, l'adversaire était légèrement décimé. Il a manqué quelques joueurs, donc voilà, c'était une occasion rêvée pour nous de l'emporter sur notre premier match. Et après, sur les émotions, effectivement, il y avait une bonne ambiance. C'était plutôt festif, on va dire. Il y avait du monde, il faisait beau, le temps était au rendez-vous, donc ça fait un élément de plus favorable, entre guillemets. Et voilà, après, le seul petit bémol, c'est le manque de maîtrise contre une équipe qui était diminuée et sur laquelle je pense qu'on aurait pu un peu plus capitaliser. Mais voilà, on va pas faire la fine bouche, on est content de gagner notre premier match à ce niveau-là.
Sofiane Vala et Victor Lefebvre ont inscrit les deux buts. Alors sur deux erreurs de relance d'Aubervilliers, c'était quelque chose d'identifié, de pouvoir profiter de ce genre d'erreur ou voire de pousser finalement Aubervilliers à la faute.
Alors vous dire que c'était calculé, non. Après, on sait très bien que sur ce championnat National 2, la moindre erreur peut coûter cher. Ça se voit sur les deux premiers matchs que l'on a joué par rapport au niveau National 3. C'est peut-être l'un des facteurs les plus modifiés par rapport à ce qu'on a dans N3. Donc oui, on avait appuyé sur le fait qu'on n'aurait peut-être pas forcément tant que ça des occasions de but et qu'il faudrait capitaliser. Et on se rend compte que les équipes en National 2 prennent parfois un peu plus de risques qu'en National 3. Et du coup, voilà, ne pas se laisser avoir par quelqu'un qui aurait mis trois touches ou deux, ou qui tenterait une passe latérale un peu compliquée. Voilà, je préfère qu'on court un petit peu plus et que ça ne serve pas, plutôt qu'inverse, oui. Où on aurait eu des regrets. Après le deuxième but de Victor, effectivement, il y a une erreur du défenseur. Sur le premier but, je mettrais un bémol parce que ceux qui étaient au stade pourront confirmer. C'est un ballon qui est un peu contré, qui monte assez haut. Et en fait, Sofiane Vala fait une reprise de volée du coin des 18 mètres dans le petit filet opposé. Vraiment très 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 belle volée. Donc ouais, j'ai du mal à lui dire que c'est sur une faute de l'adversaire et j'ai plutôt envie de lui donner le crédit parce qu'il est vraiment joli.
Et il en sera content, évidemment, Sofiane Vala. 4 points en 2 journées, ça démarre bien, mais vous disiez notamment à nos confrères de la presse écrite après le match qu'il ne fallait pas s'emballer. L'idée de repousser finalement toute forme de déconcentration.
Oui. On sait bien que les équipes sont souvent performantes quand elles ont peur, quand elles craignent un petit peu l'adversaire. C'est ce qui se passe souvent en Coupe de France ou autre, quand on a un peu plus peur, on est un peu plus attentif aux consignes, on fait un petit peu plus d'efforts. Et voilà, je veux que mon équipe elle continue à avoir peur de nos adversaires parce que je reste convaincu qu'on a joué une équipe de Saint-Brieuc qui n'est pas prête encore, qui n'a pas fait tout son recrutement, et une équipe d'Aubervilliers qui est venue chez nous amoindrie. Donc j'ai le sentiment en tout cas que ça ne représente pas le championnat réel de la 2. Donc ça, c'est un premier critère. Et le deuxième critère, c'est qu'on sait très bien, on l'a vu l'année dernière, même dans notre championnat, dans tous les championnats, les promus qui montent au départ, voilà, c'est la découverte. Tout le monde est à 120%. Et par contre, au fur et à mesure de l'année, ça se durcit, les efforts sont plus durs à faire, on perd de l'énergie, on perd. Voilà. Et du coup, je ne veux pas que ça arrive trop vite. Et donc, je veux pour l'instant qu'on ne soit pas sur la dynamique de calculer ou de se dire, finalement, c'est un petit peu plus facile que ce qu'on avait prévu, ou de ce qu'on avait prédit. Voilà, le plus dur arrive et il faut qu'on soit paré à ça.
Vous aviez terminé la saison passée en N3 avec la meilleure défense de votre groupe. Là, ça fait 2 clean sheets en 2 matchs. Le fait de conserver une assise défensive aussi, c'était la priorité finalement de l'intersaison.
Très honnêtement, non. Je reste convaincu qu'à chaque fois, on ne prend pas beaucoup de buts et qu'on a la meilleure défense, non pas parce qu'on a des bons défenseurs, mais parce qu'on a une façon de défendre en marche avant, assez haute, etc., sur du pressing, qui fait qu'on ne prend pas beaucoup de buts, en fait. Donc, on n'a pas travaillé spécifiquement. Au contraire, on avait travaillé un petit peu plus pendant la pré-saison. C'est pour ça que les résultats n'étaient pas au top. Mais le fait de jouer vraiment très bas, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais cette année, on sera sûrement repoussé dans le retranchement plus souvent que l'année dernière. Et donc, voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, on défend un peu comme on aime. Donc pour l'instant, ça réussit. Après, voilà, je pense que eux et moi, on sait que ça va pas durer et qu'on va être sur le reculoir bien plus souvent que ce qu'on a eu sur les 2 premiers matchs. Donc on attend cette période-là et on sait qu'elle sera plus compliquée pour nous.
Il faut en profiter en tout cas pour prendre un maximum de points. Prochain match samedi sur la pelouse de Granville. Merci beaucoup Stéphane Lamant d'être venu nous répondre à nos questions ce soir.
Avec plaisir, merci. Bonne fin de soirée à tout le monde.
Bonsoir.
Sur les France Bleu de Bretagne, Gaëtan Pinel, 100% Footbraise.
Et on approche déjà de la fin de ce 100% Footbraise, émission qui reviendra demain avec un bilan du mercato du Stade Brestois qui a vu l'arrivée dans les dernières heures de Bilal Brahimi, prêté par l'OGC Nice. Nous retrouverons aussi François Rosy du côté de Rennes pour décrypter les mouvements estivaux du Stade Rennais, aussi bien côté arrivée que départ, le départ de Doku, les arrivées de Blas, Le Fay, Matic, du beau monde en rouge et noir cette saison. Et puis enfin, nous nous pencherons sur l'une des performances du deuxième tour de la Coupe de France et en l'occurrence sur la qualification du club morbihanais du FC Saint-Péreux, club de départemental 2 dans le Morbihan et qui sera donc au troisième tour de cette Coupe de France.